Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 16 décembre 2023 aujourd'hui. C'est les toutes dernières semaines de l'année. On tire les dernières cartouches, mais comme vous le voyez, c'est tout simplement l'euphorie sur les marchés. Alors comme je le dis depuis plusieurs jours, le problème avec l'euphorie, c'est qu'on ne sait jamais où ça commence ni où est-ce que ça s'arrête et surtout quand est-ce que ça s'arrête. Mais on va faire un petit bilan de cette semaine qui aura été clairement spectaculaire. Et c'est vrai, quand on fait la liste de tout ce qui s'est passé cette semaine, on se dit « Waouh !» Il y a quand même un truc qui s'est passé quelque part. C'est incroyable. Si on commence dans l'ordre, le S&P 500 est en hausse de 2,7% sur la semaine. On n'est plus qu'à 1,6% des plus hauts historiques sur le S&P. Et comme c'est parti, on a l'impression que on va forcément y aller. Et puisque on l'a vu également, le Dow Jones et le Nasdaq sont au plus haut de tous les temps. Que demande le peuple, hein. Et c'est parfait. Merci la Fed. Merci Monsieur Powell. La Fed a donc maintenu ses taux inchangés la semaine dernière. Et en plus, ils ont plus ou moins pivoté. Ils ont plus ou moins fait un discours dovish et ils ont plus ou moins laissé entendre qu'ils couperaient les taux trois fois l'année prochaine. Donc ça n'est une surprise pour personne, tout le monde s'attendait à ça, mais surtout la grande nouvelle, c'est que la Fed a donc changé son fusil d'épaule, changé d'orientation et du coup on est encore méga bullish. Le marché lui attend en tout cas 6 baisses de taux, pas 3. Il y en a même qui attendent beaucoup, beaucoup plus. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est une excellente nouvelle. 24 heures après le discours de la Fed, Monsieur John Williams, le patron de la Fed de New York, s'est quand même précipité pour dire que non, ils n'avaient jamais vraiment discuté de baisse des taux et qu'ils étaient plutôt sur une tendance de vouloir continuer à monter les taux au cas où pour freiner l'inflation. Donc lui, il est toujours sur un discours super hawkish. Ça met un petit peu de doute. Ça aurait pu mettre un petit peu de doute dans l'esprit des investisseurs dans cet environnement de marché complètement délirant. Mais comme c'est un environnement de marché complètement délirant, eh bien tout le monde s'en fout. Résultat, le marché monte quand même. Et ce qu'il faut voir quand même, c'est que la Fed, ils sont en train de se marcher dessus. Un coup, ils te disent on baisse les taux. Après, ils disent non, on baisse pas les taux. Il y a comme un problème de communication à l'intérieur. Ou alors, ils sont en train de lancer un spectacle pour le Cirque CNIL l'année prochaine. La volatilité est au plus bas depuis 4 ans. Ça se passe de commentaires, hein, ça veut juste dire que les gens n'ont peur de rien. On l'a vu aussi sur les autres indicateurs contrariants. Il n'y a rien à craindre, tout le monde est super serein. On est extreme greed, extrême limite, on n'achète plus de put, on n'achète plus que des calls. Il n'y a plus de volatilité, plus personne n'achète d'options pour protéger ses portefeuilles. Et Jim Cramer, il a annoncé qu'il n'y aurait pas de récession. Alors, vu son track record depuis ces 5-6 dernières années, on peut se dire qu'il y aura une récession. Ça, c'est un indicateur, il faut faire très très attention. Pas tout de suite, mais il va se gourer, puisqu'il fait que de se gourer ces derniers temps. Apple est au plus haut de tous les temps. Voilà, donc il y a quelques semaines en arrière, 8 semaines, 6 semaines en arrière, on trouvait que les résultats n'étaient pas terribles, que ça faisait plusieurs trimestres que c'était pas terrible, que les produits se renouvelaient pas assez vite et que c'était trop cher. Et ben voilà, c'est encore plus cher. On est au plus haut de tous les temps sur Apple et ça vaut bien plus que 3000 milliards de dollars. Mais le type de chez Wedbush, Dan Ives, a déjà prédit que ça irait à 4000 milliards de capitalisation boursière probablement en 2024. La banque centrale chinoise est en train d'injecter de l'argent régulièrement dans l'économie, des montants records tous les mois, ça continue encore et encore. Pourtant, l'économie est toujours flatliner en Chine. Dans les autres banques centrales, la BCE n'a rien fait et laisse entendre que l'inflation pourrait repartir un petit peu l'année prochaine. Le discours n'était pas aussi dovish que la Fed. La Banque d'Angleterre n'a rien fait, mais eux restent clairement au quiche pour l'instant. Et la Banque Nationale Suisse n'a rien fait non plus, mais ils nous disent qu'ils vont quand même surveiller, parce qu'on sait jamais. Bon, l'inflation à 1,9%, les gars, ils se victimisent comme s'ils étaient dans la même situation que les autres, mais ils ne sont pas du tout dans cette situation-là. Mais comme on sait qu'ils sont très très forts à la BNS, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Les Norvégiens, eux, ils ont monté les taux de 0,25% la semaine dernière. Goldman Sachs dit que tout va bien et ils s'attendent à que la Fed baisse les taux la première fois en mars et puis deux fois de suite. Hein. Donc ils parlent de deux à trois baisses des taux entre mars, avril et mai. Donc en gros, super serein, pas de souci, l'avenir est tout rose. Alibaba est au plus bas de 52 semaines alors que la plupart des titres du S&P 500 sont en train d'aller chercher les plus hauts des 52 semaines. Pfizer est au plus bas depuis 10 ans malgré leur superbe vaccin contre le Covid. La SEC a rencontré BlackRock pour parler de l'ETF Bitcoin qui est un peu le serpent de mer de ce début d'année 2024. On n'y est pas encore, mais j'anticipe déjà. JP Morgan pense que l'Ethereum va surperformer le Bitcoin et pendant ce temps, le CEO de JP Morgan dit que les crypto-monnaies, c'est de la merde. Aux États-Unis, les taux hypothécaires sont redescendus en dessous de 7% depuis la première fois depuis bien longtemps. C'est une bonne nouvelle. Ça fait encore cher l'hypothèque à 6,80, mais ça va déjà beaucoup mieux qu'au-dessus de 7. Les ventes de détail continuent d'augmenter de manière assez impressionnante aux États-Unis. Et puis, retenez bien ce chiffre, de plus en plus d'Américains, et c'est un nombre record historique aujourd'hui, consacrent plus de 50% de leurs revenus à payer leur logement. Imaginez, vous gagnez 10 000 $ par mois et vous avez 5 000 $ de charges de logement, donc c'est pas aussi facile que ça au niveau de l'immobilier aux États-Unis, malgré ce qu'on nous vend quand même à droite à gauche. Le prix des restaurants aux États-Unis depuis 2020 a monté de 24%. Vous payez 24% plus cher la bouffe aujourd'hui au restaurant que vous ne la payiez il y a 3 ans en arrière. Et au milieu de tout ça, on vient nous dire que ça va beaucoup mieux au milieu de la thématique de l'inflation. Trump a déclaré que s'il était élu fin 2024, les États-Unis allaient connaître une des plus grandes périodes d'expansion économique. Donc si vous êtes américain, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Votez Trump. De toute façon, vu l'état de l'autre, c'est même pas sûr qu'il arrive jusqu'aux élections. Et puis, au niveau des dépenses, on n'a jamais vu les Américains dépenser autant ces derniers temps, justement. Et puis alors, surtout sur les fêtes de Noël, pour l'instant, on s'attend à un total des dépenses, au total, hein, Thanksgiving, Black Friday, etc., etc., on s'attend à 966 milliards de dollars de dépenses, sachant qu'une bonne partie se fait via les cartes de crédit, que l'endettement des cartes de crédit est au plus haut d'historique et qu'en plus, les taux sur les cartes de crédit sont toujours au-dessus des 20%, ça promet de belles réjouissances pour l'année prochaine. Le CPI est sous contrôle, autrement dit, l'inflation est sous contrôle, les marchés sont dans une euphorie totale et je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter puisqu'il faut encore noter dans tout ça que l'Allemagne, l'Inde et la France sont au plus haut de tous les temps sur les places boursières. Et puisque l'on parle de performance, nous voici donc sur les performances de la semaine. Alors vous voyez, Semiconductor Index plus 9% sur la semaine, le Dow Jones pratiquement hausse de 3%, le Nasdaq de 2,85%, les deux terminent au plus haut de tous les temps, le Hang Seng, même le Hang Seng rebondit, le S&P 500 plus 2,5%, le Nikkei plus 2%, le SMI plus 1%. Et puis le CAC et le DAX qui termine quasiment quand même au plus haut de tous les temps, mais sur la semaine c'était un petit peu plus difficile quand même. Le pétrole rebondit un tout petit peu, et puis pour le reste on a toujours la Chine qui traîne la patte et le Bitcoin qui corrige de 3,5%. Parce qu'il y a un petit peu trop d'histoire autour de la SEC, des réglementations. Les gens se posent un peu des questions, mais visiblement, après avoir parlé avec pas mal de spécialistes cette semaine, il semble que de toute façon, la question n'est pas de savoir si on ira à 100 000 $ sur le Bitcoin, mais plutôt quand est-ce qu'on ira à 100 000 $. Pour le SMI, vous voyez Sika, Kuehne+Nagel, 11% de hausse, Geberit plus 8%, Sonova plus 6,58%, Logitech plus 5,35%. Bref, on y va, on y retourne, on rachète tout ce qui passe sous la main. L'UBS qui continue encore et encore à monter. Et puis alors, Swiss Re qui est toujours un peu sous pression, Zurich qui est sous pression, forcément, hein, on voit les assurances qui s'en prennent un peu plein les dents parce que tout d'un coup, les rendements se sont pris une claque, on l'a vu, à cause des décisions de la Fed. Hein, le 10 ans américain est passé de 4,20 à quasiment en dessous de 4%, ça faisait longtemps que ça peut arriver. Et puis Roche qui rachète une boîte, on en reparlera tout à l'heure, et qui perdait 3,5% sur la semaine. Pour une fois que Roche commençait à aller un peu bien, eh ben on est de nouveau un petit peu déçu et on va regarder tout ça en détail après. Attaquons maintenant l'aspect technique des marchés. Alors vous voyez, ça va être assez rapide. Hein. Le SMI qui rentre, qui est clairement rentré dans son trend haussier. Hein. Souvenez-vous, on avait longtemps surveillé cette tendance haussière qui passait par là et par là. On est revenu dedans. On a cassé la moyenne mobile des 50 jours, des 200 jours. Tout le monde est content. Tout va très bien. On a eu une reprise de profit en fin de semaine. On est passé de 11 330 au top pour terminer juste en dessous des 11 200 sur le SMI. Mais l'un dans l'autre, on est revenu dans cette tendance haussière. Alors c'est une bonne nouvelle. Maintenant, ce qu'il faudra surtout surveiller par la suite, ce sera savoir si on arrive à continuer à rester là-dedans. Parce que maintenant, on a un support. On voit un petit peu que là, les stochastiques sont un peu extended. Donc on pourrait revenir en direction des 11 000. Le 11 050, ce sera un point d'intérêt assez intéressant parce que ça voudrait dire que si on tient ces 11 000, on pourra commencer à jouer cette tendance. Et si on venait à casser en dessous, ce sera une autre histoire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les marchés ont l'air tellement forts qu'il n'y a pas de raison qu'on vienne casser ce nouveau support que nous avons ici. L'Europe, je vous le disais, c'est pas au plus haut de tous les temps à la fin de la semaine, mais l'un dans l'autre, bah, la France est au plus haut, vous le voyez sur le CAC ici. On a clairement tout cassé, voilà, bon, il n'y a plus de questions à se poser. Bon, là, il y a quelques questions. Est-ce qu'on prend les profits avant la fin de la... avant la fin de la... de, comment dirais-je, avant la fin de l'année? Les gens sont un petit peu tendus, mais quand on écoute, quand on voit le niveau, finalement, d'intérêt sur les marchés, on se dit qu'il n'y a pas de raison. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, les investisseurs privés sont en train d'acheter comme des malades mentaux sur les marchés. On a un niveau d'investissement dans les actions qui n'a pratiquement jamais été vu. Donc pour l'instant, ça continue jusqu'à que quelque chose se passe. Le DAX, même chose, plus haut de tous les temps. Économie exsangue, risque de récession en Allemagne, grosse chute de l'inflation, et parce que c'est la récession et parce que ça va pas bien, ça va pas bien du tout. Et les gens sont extrêmement tendus. On se demande si c'est la dernière qui sonne. Et là encore, hein, il reste 2 semaines à tirer. Est-ce que le DAX a la capacité d'aller plus haut encore? Puis aux États-Unis, le S&P 500 est à 4715. Alors les fans d'analyse technique diront ouh là là, quand on regarde les deux derniers candlesticks qu'on a fait sur le S&P 500. On voit là, eh bien, c'est des candlesticks d'hésitation. On voit qu'on a de la peine à pouvoir aller plus haut. Est-ce que c'est le signal qu'il va falloir commencer à vendre? Franchement, j'aurais envie de le dire. Il y a plein de choses qui nous laissent supposer qu'à un moment donné, on va s'en prendre une. Mais pour l'instant, le marché est tellement fort qu'on a de la peine à croire que ça puisse baisser. Même si ça paraît évident, de plus en plus de gens viennent nous le dire. Mais franchement, pour l'instant, c'est tellement fort que c'en est impressionnant. Je ne vous parle même pas du Dow Jones, hein, c'est quasi vertical. Juste pour la petite histoire, il faut quand même se rappeler que le Dow Jones, fin octobre, début novembre, on était à 32 493 sur le Dow Jones. Et on a en hausse de 15% de hausse sur le Dow Jones depuis le début du mois de novembre. Et on parle du Dow Jones, hein, on parle pas du Nasdaq. Le Nasdaq, que voilà. Voilà, que dire de plus, on a touché les plus hauts de tous les temps. Là aussi, hein, on peut plus faire d'analyse technique quand c'est vertical comme ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on arrive à des niveaux où les plus riches d'entre nous, même s'il y en a encore, admettons qu'il y en a encore quelques-uns, on arrive à des niveaux où ça, ben, c'est un double top, hein. Il faut pas chercher plus loin. Pour l'instant, si ce truc-là se confirme, eh ben, c'est un double top sur le Nasdaq. Et si on n'arrive pas à casser rapidement, eh bien, on va commencer à flipper. Et puis, quand vous regardez certains niveaux aussi de stochastique, eh bien, on peut se poser certaines questions. Le truc le plus fou de la semaine, le SOX Semiconductor Index, qui termine au plus haut de tous les temps, bien sûr, qui a cassé nettement les plus hauts. Mais là aussi, hein, si on revient sur ce qu'on a vécu ces derniers mois, ce qu'il faut vraiment regarder en prenant un peu de recul, on approche les fêtes de fin d'année, donc il est temps de prendre du recul. Depuis le fond du trou, regardez, depuis fin octobre, on a pris 32% sur le semi-conducteur index. Je ne sais pas ce que l'on entend quand on parle de marché qui est overextended, mais j'ai quand même un tout petit peu l'impression que ça devient du grand n'importe quoi. Le pétrole, pour ceux qui croient qu'il y a encore une vie après le pétrole, il faudra retenir que le baril revient quand même sur des niveaux dans cette zone-là qui sont des niveaux d'achat. Donc attention, plutôt acheteur sur le pétrole ces prochains temps. L'or qui tente de s'en sortir mais qui n'y arrive toujours pas, hein. Pour l'instant, on a fait ce renversement de tendance la semaine dernière et pour l'instant, il va falloir qu'on vienne recasser les 2081 pour espérer quelque chose. Pour l'instant, on essaye. Mais on hésite. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais je suis obligé de vous montrer le graphique. Apple est au plus haut de tous les temps. On est à $197.57. La capitalisation boursière est de plus de 3000 milliards. Et là encore, de nouveau, pour dire, voir, surtout comprendre comment le marché a tourné la veste, ça, c'est la période des résultats d'Apple qui sont sortis fin octobre. On était à 165 au plus bas et plus personne n'en voulait. Il y avait que des critiques et franchement, c'est une des périodes de résultats où j'ai trouvé que les gens étaient le plus timorés et même les plus optimistes semblaient un petit peu déçus par le manque de rythme qu'on vivait chez Apple. Et pourtant, le titre termine au plus haut de tous les temps. Là aussi, hein, vous voyez que le rebond est juste complètement ahurissant depuis les plus bas post-résultats. eh bien le titre est en hausse de 20%. Et on ne parle pas de rien du tout. Et cette hausse de 20% sur Apple représente également beaucoup dans le S&P 500. Ceci expliquant aussi cela. Dans les vedettes en Suisse de la semaine, il faudra retenir et parler de Meyer Burger. Alors Meyer Burger, panneau solaire, ce qui est assez intéressant, c'est que durant toute la période post-Fed, c'est-à-dire depuis mercredi soir jusqu'à vendredi, tout le secteur solaire aux États-Unis, eh bien c'est envolé parce qu'on s'est dit oui, mais si les taux baissent, ce sera beaucoup plus facile pour se financer, donc tout le secteur solaire, c'est génial. Le seul problème, c'est que du coup, en Suisse, on craint un changement de réglementation pour tout ce qui est solaire, énergie solaire, justement. Donc Meyer Burger s'est fait démonter la semaine dernière, rajouter à ça plusieurs downgrades de plusieurs brokers. Bref, c'était une sale semaine pour Meyer Burger qui continue d'aller de mal en pis, parce que quand on regarde le graphique qu'on voit maintenant, eh ben on voit très clairement que c'est la catastrophe pour eux. Alors, ils ont cassé déjà la première chose, hein, vous voyez. Des fois, les signaux marchent bien. On a croisé les moyennes mobiles 50 et 200 jours au mois d'août. Et puis depuis, on a ensuite cassé le support qu'on avait là, donc cette tendance haussière. Et depuis, c'est la catastrophe. On est passé de 50 centimes à 18 centimes en fin de semaine, en cherchant carrément les plus bas à 15. Donc évidemment, on est dans une phase du never catch a falling knife. Pour l'instant, sans inversement de tendance et sans envie de voir d'être un petit peu optimiste ou sans signe optimiste sur Meyer Burger. Et il n'y a pas de raison de se poser trop de questions là-dessus. Pour l'instant, il faut rester bien, bien éloigné de ce titre-là. Ici, vous avez Straumann. Straumann, il ne s'est pas passé grand-chose de spécial, mais il y a eu des upgrades. Vous voyez que tout d'un coup, tout le monde est en train de tourner la veste après les derniers résultats de Straumann qui avaient été créés, espèce de vacuum à la baisse. Eh ben, aujourd'hui, il y a que des upgrades. Il y a eu pas mal d'upgrades la semaine dernière. Surtout un gros, un très très gros qui a été passé sur Strong Buy par une banque anglaise. Résultat, vous voyez, le titre est passé sur une semaine de 122 à 137 francs suisses. Là, ça va commencer à devenir un petit peu poussif, hein, sur la zone des 146 si on continue de monter encore quelques temps sur Straumann. Termine la semaine un petit peu sous pression, qui est pas une des meilleures, qui est une des pires performances de la semaine, justement. Alors, Roche, ils ont finalisé un deal qui était déjà prévu, c'est pas une nouveauté, mais ils rachètent une boîte qui s'appelle Telavant. C'est une boîte qui appartient à une société qui s'appelle Roivant et Pfizer. Et donc, ils avaient prévu de racheter cette boîte. Ils ont versé 7,1 milliards. Alors, psychologiquement, quand une boîte sort 7,1 milliards, ça fait jamais plaisir. Mais enfin, ça fait partie de la stratégie. C'est pas une grosse surprise. On reste toujours dans la même thématique sur le bon rush. Hein. Il faut essayer d'en racheter sur faiblesse. Il faut en acheter en dissier. Et puis, en avoir toujours un peu dans son portefeuille. C'est une boîte qui fonctionne cycliquement. Quand plus personne en veut, à un moment donné, elle repart. Et puis après, on a l'impression qu'à 400, on a l'air d'un idiot parce qu'on n'en avait pas pris dans les portefeuilles. Donc, c'est long. C'est pénible, on aimerait que ça monte un peu plus, mais voilà, la nouvelle fait que Roche reste de nouveau plutôt sur les bas de son range. Bien évidemment, on avait eu un petit réveil la semaine dernière, on en avait déjà parlé, et pour l'instant, ça reste un petit peu scotché les pieds dans le béton. Affaire à suivre, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler ces prochains temps. Voilà, on notera encore que Julius Baer semble un peu digérer la crise avec cette boîte qui est partie en faillite, cette boîte immobilière qu'ils avaient sponsorisée de manière un petit peu exagérée, et puis que l'UBS continue de monter encore. On se demande si ce truc s'arrêtera de monter un jour. Là, ils sont en train d'attaquer les anciens cadres du Crédit Suisse qui ont touché des gros bonus pour essayer de récupérer le pognon. Greed is good, hein, à la fin. Donc voilà, grosso modo, une semaine relativement bonne, même si le SMI termine un peu sur une note négative. Une semaine qui nous amène également gentiment sur la fin de l'année, hein. La semaine prochaine, ce sera Noël. Donc Swiss Bliss, on verra un peu comment ça se passe. Et puis, bah, autrement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et n'oubliez pas de revenir me voir lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Parce que oui, c'est la dernière semaine avant Noël, mais on sera quand même là. Passez une excellente journée, un très bon week-end. Et puis, à lundi. Bye bye.